plié.
Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas l'odeur.
On est all to vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
On est all to vous. Go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
2020, le cinéma est partout. Plus seulement dans les salles, ni chez vous, mais au café, dans le métro, sur des écrans qui tiennent désormais dans la poche, comme la dernière fresque de Scorsese, réduite à un timbre-poste. Mais faut-il s'en réjouir? Pas si sûr. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bonne année à toutes et à tous.
4 janvier 2020, une décennie de cinéma vient de s'écouler. Quoi de neuf en 10 ans? Beaucoup dans la forme et la technologie surtout, avec l'émergence de nouveaux supports de visionnage. Visionner un film plutôt que de le mater sur une toile, ou alors la toile est désormais universelle. Netflix, Amazon et consorts, streaming et algorithmes, nouveaux mots, TS et AUX. Et pendant ce temps-là, à Hollywood, Disney mange tout le monde, Fox, Marvel, Pixar, Star Wars. Pour analyser cette révolution numérique, nos trois experts. Bonjour Jordan Minzer.
Bonjour.
Du Hollywood Reporter, bienvenue Alex Vicente.
Bonjour.
Pour El País en Espagne et bonjour Thomas Borrez.
Bonjour,
pour la France 24. Mais ces 10 ans ont aussi vu émerger de nouveaux talents, de nouveaux cinéastes très prometteurs. On a sorti nos listes. Enfin, les sorties de ce premier mercredi 2020, parmi ces films, Les filles du docteur March et un grand premier film chinois, Séjour dans les monts Fuchun. C'est parti.
The internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles. I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online.
Site got 2200 hits within 2 hours.
1000.
Ce film a quasiment ouvert la décennie et a même préannoncé la révolution numérique à venir. The Social Network de David Fincher, sur le créateur de Facebook Mark Zuckerberg, cet étudiant de Harvard qui pèse désormais à 35 ans 74 milliards de dollars. Pourquoi ce film est si important, Jordan Minzer?
Mais justement, le film est sorti en 2010, oui. Donc ça annonce vraiment la décennie à venir, qui sera la décennie non seulement de réseaux sociaux dans tout le monde, mais aussi que la destinée ou Silicon Valley va prendre le dessus, ou va manger presque, on peut dire, Hollywood, avec Netflix, avec Amazon, et même avec Disney, qui lance Disney+, qui est aussi un site de streaming. Donc on voit en fait une transformation énorme à Hollywood, dans le cinéma en général, vers le streaming, vers l'internet, en gros, et c'est le social network qui parle un peu déjà de ce pouvoir qui va venir. Dans le film d'ailleurs, à la fin du film, ils disent que Facebook, ils ont 500 millions d'utilisateurs et ça vaut 25 milliards de dollars. Ça, c'est à la fin du film en 2010. Ouais. Aujourd'hui, il y a 2,45 milliards d'utilisateurs et ça vaut 566 milliards de dollars. Donc, on voit aussi la croissance énorme. Et cette croissance a, je crois, énormément influencé Hollywood et notre façon de regarder des films.
Thomas Borrez, est-ce qu'on peut dire que streaming, c'est le mot de la décennie, presque?
Ah, complètement. Ouais. Enfin, en même temps, c'est... Oui, complètement, parce que c'est une nouvelle manière de voir un peu les choses. Ouais. Pour revenir sur The Social Network, c'est surtout un homme qui est derrière ça, c'est David Fincher. Ouais. Et que The Social Network prolonge, d'une certaine manière, son travail sur comment la caméra peut être partout. C'était le cas dans des films précédents, Panic Room, Seven, etc. Et c'est vrai que c'était lui qui était l'homme pour faire The Social Network, puisqu'il s'intéresse justement à l'image et comment on la traverse. Ce qui est un petit peu dommage dans cette décennie, c'est que non pas que David Fincher soit totalement éteint, il a fait d'autres films, on le voit aussi avec ses séries Mindhunter, mais il a beaucoup de mal aujourd'hui à exister à Hollywood, et ça aussi c'est symptomatique de ce qu'est devenu l'industrie aujourd'hui.
Vous évoquiez Netflix, Alex Vicente. Netflix a permis quand même, face aux studios qui sortent leur méga prod, de tout d'un coup produire des auteurs qui ne peuvent plus être produits ailleurs. Je pense à Scorsese et The Irishman, lequel Scorsese avait dû s'adjoindre les services de Leonardo DiCaprio pour produire en très longtemps, d'ailleurs, son film précédent.
On peut évoquer aussi l'exemple d'Alfonso Cuarón avec Roma.
Bien sûr.
Le premier film à Oscar produit par Netflix et qui prouve aussi un déplacement vers les plateformes VOD qui met en cause l'hégémonie de cinéma face au succès de Netflix et l'arrivée prochaine de tous ses concurrents.
Attendez, j'ai un débat entamé avec vous. Quand on dit, par exemple, OK, The Irishman, c'est la nouvelle saga, le nouveau film de Scorsese... Pour moi, c'est pas vraiment un film de Scorsese, c'est un film de Scorsese sur Netflix, ce qui est pas pareil.
Oui, d'ailleurs, ils ont sorti un chiffre après la sortie du film sur Netflix qui disait que il y a eu énormément de gens, des millions de gens qui ont regardé le film, mais seulement 18% qui ont fini le film pour le premier visionnage.
Ouais, qui dure 3h30.
Oui, c'est pas un film forcément fascinant parce que c'est un peu long, mais ceci, la question de qu'est-ce que ça veut dire de regarder un film en streaming en ligne, c'est pas du tout la même expérience de regarder. On peut regarder un film dans une salle et on peut quitter la salle aussi, mais c'est un peu plus rare, je crois, que d'arrêter sur Netflix et de choisir autre chose.
Sur le même sujet.
Oui, c'est-à-dire que c'est un film de Scorsese parce qu'il a pensé, il continuera de penser les films comme des films sortant sur grand écran. C'est ça qui est intéressant. Sur Alfonso Cuarón, pas produit par Netflix, mais distribué par Netflix, il a été pensé aussi pour sortir en salle.
Mais le résultat est le même.
Mais le résultat est le même. Et à mon avis, un grand film supporte tous les écrans. Alors après, effectivement, en tant que spectateur, on peut se dire, est-ce qu'il faudrait mieux le voir au Louvre ou alors sur une reproduction dans un livre ? On est tout à fait d'accord qu'il y a une grande différence. Mais un grand film, selon moi, The Irishman est un grand film, supporte le petit écran.
Il n'empêche que l'auteur de ce grand film-là nous dit, surtout, ne le regardez pas sur petit écran.
Ah mais ça, c'est une subjectivité personnelle et ça...
C'est Scorsese qui dit, ça veut bien dire
qu'il a pensé grand écran, lui. Donc oui, c'est un film de Scorsese, pour répondre à ce que disait Christine. C'est un film de Scorsese.
C'est un peu spécifique.
Non, c'est un film conçu par Scorsese, mais qui se voit sur un écran timbre-poste. Donc on n'a plus les détails de la mise en scène, Thomas. On n'a plus du...
Moi, je la vois, quand on est sur un petit écran, on touche quasiment avec le nez.
Je peux comparer avec Roma, parce que Roma, j'ai eu la chance de le voir sur grand écran. Et chaque fois, je méprisais un peu les gens qui me disaient, non, c'est pas si bien. Mais je les comprends. Ils n'ont pas vu, on n'a pas vu le même film.
Juste pour le film quand même a été refusé par tout le studio.
Oui.
Parce que aussi ça a coûté très très cher.
Fallait-il le faire?
Ça c'est une autre question.
Ouais.
Mais on peut aimer ou pas aimer le film, mais la réalité c'est que Netflix a repris un peu le rôle de studio à faire des drames d'adultes. Par exemple, un film comme Social Network serait pas forcément fait aujourd'hui par un studio hollywoodien. C'était Sony qui a fait le film en 2010. C'est pas sûr que le même film qui a coûté 40 millions aurait été greenlighted, comme on dit, aujourd'hui.
Alors, cas inverse, c'est un auteur new-yorkais, pur jus, c'est Noah Baumbach, qui a fait quelques films, succès discret, on peut le dire, même s'il est très aimé par une partie des spectateurs, là, qui fait un film qui s'appelle Marriage Story sur Netflix, qui fait pleurer la terre entière, qu'on regarde sous sa couette. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont engagé leur première auteur maison avec Baumbach. C'est-à-dire que ce sont des films qui peuvent ne pas être même vus sur grand écran.
Mais je pense que c'est le même cas de figure, c'est ce que Jordan disait, je pense que c'est exactement la même chose, c'est un type de film que les studios ne sont plus prêts à produire aujourd'hui. Et du coup, leur destination naturelle devient les plateformes VOD. Ce type de drame, un budget plus ou moins modéré, n'est plus du tout au goût du jour par les grands studios. Donc, de ce point de vue-là, Noah Baumbach colle parfaitement à ce que Netflix cherche, parce que c'est des films qui coûtent pas énormément d'argent, qui vont quand même trouver un public, parce que c'est un type de film qui est plutôt accessible, qui correspond à la case, dans ces cas, du film de divorce, qui est très ancré dans les cinémas américaine des dernières 40-50 années. Donc oui, dans ce sens-là, c'est peut-être l'un des premiers auteurs maison, comme vous disiez.
Thomas, attendez, est-ce qu'on mène pas un combat d'arrière-garde en discutant en ce moment-là.
Complètement. C'est-à-dire que, c'est même pas, quand je dis complètement, c'est pas parce que je suis en avance sur mon temps, c'est juste que maintenant, on sait que des films comme The Irishman, comme ne seront plus possibles, produits par les grands studios, les studios ne le produiront pas, on le verra sur Netflix. Et donc, il va falloir s'habituer déjà à s'équiper. Alors, les plus fortunés pourront s'équiper avec des home cinéma, mais sinon, les gens apprécieront leurs films sur le petit écran. Et je ne suis pas d'accord sur l'idée que The Marriage Story sera limite plus compatible avec un petit écran que The Irishman. The Irishman, ça reste un film très intimiste avec des face-à-face de personnages, de la même manière que Marriage Story lui ressemble. Alors de là à dire que les deux sont labellisés Netflix va inventer un nouveau langage, c'est ce que je souhaite. De la même manière que toutes les révolutions techniques, alors avant c'est l'inverse, avant c'était le cinémascope, l'écran s'agrandit. Là on va dire que l'écran se rétrécit, mais à travers ce rétrécissement d'autres idées vont naître, c'est ça. Alors bien sûr que des gens comme Scorsese, qui ont connu l'Hollywood de l'âge d'or d'une certaine manière, semblent un peu dépassés. Ils nous disent de manière un petit peu, je trouve, spécieuse, « Ah ben non, mais voyez mon film sur grand écran. » Oui, mais nous on est en France, on peut pas.
Il faudra que les idées naissent aussi en France pour préserver quand même ce réseau de salles et d'écrans que le monde entier nous envie et qui fait que le cinéma encore, de ce point de vue-là en France, existe de cette manière-là.
Regard des étrangers, Cannes se défend pas mal de ça, contrairement à la Mostra de Venise ou à Berlin.
Et oui, et en même temps, on peut constater aussi que la France fait figure d'exception par rapport à ces enjeux dont on est en train de débattre.
De même qu'on fait figure d'exception avec l'exception culturelle.
Bien sûr.
On continue sur la même ligne.
Mais voilà, ici, il y a encore beaucoup de salles. À Paris, en tout cas, il y a beaucoup de salles. Il y a une régulation plutôt favorable aux exploitants. Mais dans le reste du monde, c'est un fait accompli qu'on voit les films sur les petits écrans, en Espagne notamment, aux États-Unis. Je pense que j'ai jamais vu autant de commentaires sur des films sur les réseaux sociaux que pour les films qui sortent. Qui sont sortis par Netflix, et dans les cas de Roma, et dans les cas du Scorsese, et dans les cas de Noah Baumbach. On ouvre Twitter, il y a un flot de commentaires en permanence sur ces films, alors qu'en général, on en parle beaucoup moins quand ce sont des films qui sortent en salle.
Jolie musique, Jordan. Très douce et très gentille pour une compagnie majeure qui est en train de manger tout le monde à Hollywood. C'est Disney, non, mais c'est complètement dingue.
Oui, c'est justement, vous avez tout au début de l'émission, c'était la générique de Fox. Maintenant, je ne sais pas si on va avoir le générique de Disney puis le générique de Fox.
Mais oui.
Parce que Disney a racheté Fox en 2019 après avoir déjà racheté Marvel. Pixar et Lucasfilm, c'est-à-dire Star Wars. Donc ils ont, j'ai lu qu'ils avaient au box-office américain en 2019, je crois 45% du marché en fait de recettes, c'était de films Disney. Donc c'est un monopole effectivement, et un monopole qu'on avait essayé d'éviter pendant assez longtemps avec des lois antitrust à Hollywood. Mais justement, ils sont en train de renverser la décision de l'antitrust et de laisser des compagnies comme Disney non seulement occuper énormément des salles, mais aussi de plateformes avec Disney+, avec leur propre service streaming.
Est-ce qu'on n'a pas peur que ça va lisser un peu toutes les productions, Thomas Borès?
À partir du moment où il y a une concentration, c'est flippant, on appelle
Oui.
C'est la dictature, en fait. Voilà. Alors après, bien sûr que Disney va nous dire chaque entité sera indépendante et on va mettre des auteurs. On voit quand même comment J.J. Abrams, avec le dernier Star Wars qui est sorti récemment, de voir un petit peu comment il semble un petit peu perdu. On sent qu'il est fatigué de faire ça. On sent qu'il a envie de s'émanciper de tout ça et que ça y est, c'est fini, le contrat se termine, je vais passer à autre chose. Et on le comprend. Du coup, non, mais c'est vrai. Où vont être les auteurs dans cette compagnie Disney? Ils vont se raréfier, c'est sûr. Et donc, bien sûr...
Netflix.
Ils vont aller chez Netflix. Voilà. C'est pour ça que je sauvais Netflix.
Mais c'est vrai. En gros, c'est très grossier, mais c'est un peu ça quand même, Jordan, non?
Ben oui, parce que le Disney, en gros, le mandat quand même, c'est de franchises et de blockbusters, de films avec des budgets de 150-200 millions de dollars de budget. Et donc, à côté de ça, il y a quand même des indépendants ou des films pour adultes, on peut dire, qui vont être produits plutôt par la plateforme streaming. Pas seulement, mais plutôt, oui.
Et qu'en est-il alors pour les minorités qui on va voir à Hollywood, par exemple.
Mais ça, justement, c'est
la représentation.
Voilà, mais ça, c'est une... Depuis quelques années, il y avait la campagne Oscar So White, qui était le fait qu'il n'y avait pas assez de minorités représentées dans l'Académie des Oscars. Il y a eu des changements.
Dans les votants, vous voulez dire, c'est ça?
Dans l'Académie, qui vote. Et donc, il y a eu des changements entre-temps. On peut dire, justement, du côté Disney, il y avait Black Panther, qui était un succès énorme. Black Panther, Panthère noir.
Oui.
Et qui était un film avec des acteurs noirs, réalisé par une équipe complètement noire. Et c'était un film revendiqué comme le premier blockbuster noir à Hollywood. Moi, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est un réalisateur comme Jordan Peele. Qui était comique avant, qui avait une émission de comédie à sketch et qui a fait deux films d'horreur, des films de genre, mais qui sont assez innovants dans le film du genre et qui sont justement dans cet endroit qui sont pas des blockbusters, qui ont cartonné au cinéma, mais qui restent des films modestes mais avec des grandes idées, surtout des idées sur la race, sur l'héritage de l'esclavage aux États-Unis dans Get Out, sa première comédie, et après son premier film, et après dans Us, qui était un film plus sur la fracture sociale. Donc moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui joue ce rôle qu'on voit plus de tout, de faire des films un peu commercial, grand public, mais intelligent, qui sont pas des franchises, qui sont des idées originales.
Alex est aussi une autre minorité, entre guillemets, vraiment révélée par une affaire terrible, c'est l'affaire Weinstein, et tout d'un coup, on a commencé à réfléchir sur les femmes dans le cinéma.
Oui, les femmes sont pas minorité, mais elles le devenaient de facto.
Exactement.
Car elles étaient invisibles ou sous-représentées, en tout cas, dans les postes de pouvoir. Et évidemment, il faut souligner l'attention portée à la place des femmes comme conséquence du mouvement MeToo, mais pas que, car c'est un débat qui venait quand même de loin. Puis dans les cas qui touchent aux agressions sexuelles, j'aimerais parler aussi de la fin de la séparation entre l'œuvre et l'auteur, qui a souvent été utilisée jusque-là pour défendre les travaux de certains réalisateurs. Vers la fin des années 2010, on voit bien que cette séparation se brise. Après, on peut en penser ce qu'on en veut, mais c'est sûr qu'il y a eu un changement de ce côté-là aussi.
On en pense qu'on en veut.
On peut dire que les 10 dernières années aussi ont vu, bon, elle existait avant, bien sûr, mais une émergence de la vague asiatique. Thomas Borès, on va commencer par la Corée. Il y a des noms, hein, Bong Joon-ho, Lee Chang-dong, Park Chan-wook, Yeon Sang-ho. Maintenant, on sait un petit peu mieux prononcer leurs noms. Tiens, on va choisir un extrait. On a choisi Burning, justement. Ouais. Voilà donc émergence asiatique. Cette décennie qui s'achève avec Parasite, qui est selon moi le premier film asiatique qui plaît au monde entier.
Bah oui, et tant mieux. Et bah oui. D'ailleurs, ce qui est symptomatique, c'est qu'il obtient la Palme d'Or, alors qu'en 2004, quand All Boy est à Cannes, même Quentin Tarantino, qui l'adore, le met au deuxième rang.
Derrière 9/11.
Voilà. Bon, alors c'était à l'époque Miramax, Weinstein. Bon, c'était très.
Non, non, mais on dit que Tarantino voulait lui donner la Palme.
Bien sûr.
Oui, c'est vrai.
Tout à fait. Et donc cette émergence du cinéma sud-coréen dont vous parlez, effectivement, est arrivée bien avant cette décennie-là, oui. Puisque ça commence vraiment au tournant des années 2000. Avec des gens comme Kim Ki-duk, des gens comme Kim Sang-soo, et très vite Bong Joon-ho, Memories of Murder, ce que nous on découvre en France vers 2003, et qui a déjà un film derrière lui. Et donc c'est vrai que les années 2010, c'est l'avènement de ce cinéma-là, et peut-être que c'est lié avec ce qu'on disait tout à l'heure, le cinéma de genre auteur que Hollywood ne fait plus, eh bien les Sud-Coréens le font.
Et
du coup, on a de très beaux films, et ce qui est rassurant, eh bien c'est que le monde entier a envie de voir ces films-là. Donc Hollywood, vous pouvez continuer à faire des thrillers d'auteur. Voilà, et surtout, de ne pas ramener tous ces réalisateurs à Hollywood, où on sait comment ça se passe, ils vont être broyés.
Laurent, il y a la Chine aussi, bien sûr, on parle de Jia Zhangke.
Le papa Jia Zhangke, oui.
Lac aux oies sauvages, qui était en compétition à Cannes. Et un film dont on va parler tout à l'heure, qui est un premier film absolument incroyable, qui s'appelle Séjour dans les monts Funshou.
C'est la même vague, c'est effectivement quand même la figure tutélaire de Jia Zhangke, qui combine, on le verra, on le redira tout à l'heure, effectivement, une attention au passé et au présent, voire au futur, qui est tout à fait, qui fait des films très intéressants. Et puis, il faut dire le Japon quand même, parce que la Palme d'Or cette année, la Corée, la Palme d'Or l'année précédente, le Japon de Kore-eda, qui là aussi donne de très très beaux films, très belles choses, avec peut-être tout ce cinéma asiatique, il y a peut-être un trait commun, c'est la famille. Ce sont des films qui, en général, parlent de famille. Et ça, c'est universel. Ça explique aussi, en partie, certainement, le succès mondial.
Jordan Minzer, l'énorme marché chinois. Est-ce que ça vient pas concurrencer le marché américain?
Mais non, c'est pas concurrencer. C'est que le studio, ça fait déjà plusieurs années qu'ils cherchent à plaire à ce marché, à coproduire avec ce marché-là. Même il y a des films de Marvel où il y a des scènes qui ont été tourner que pour le marché chinois avec des personnages chinois ou des scènes tournées en Chine. Et ça, en fait, ça fait déjà plus que 10 ans que le parti du marché en dehors des États-Unis, c'est-à-dire on dit international, se dépasse le parti américain. Donc le film, et justement, c'est aussi la raison pour laquelle on dit que le film devient un peu générique, il perd un peu d'identité, le film grand public hollywoodien, parce qu'il cherche à plaire à toute la planète plutôt qu'à un public américain, qui était le cas il y a 50 ans.
Est-ce qu'il y a eu d'autres nouvelles vagues? Par exemple, on parlait avant de commencer du Brésil. C'est vrai que quand un pays, tout d'un coup, a une censure politique et plus d'argent, on découvre des créateurs, non, Thomas Borrez?
C'est ce que, on parlera tout à l'heure de Nadav Lapid, qui est un mes coups de cœur de cette décennie. Ouais. Et bien, justement, lui, il le dit, c'est quand il est arrivé en France et qu'il cherchait des financements, notamment c'est pour ça. Synonyme, on lui disait, oh, tu viens d'un pays Israël où c'est dur tous les jours et donc, ouais. tu dois avoir des choses à dire. Et ouais. donc, il s'est retrouvé un peu désemparé en disant, oui, mais force est de constater que c'est vrai. Ce qui se passe au Brésil, on a vu récemment un très très beau mélodrame qui se fait aussi en réaction à la situation politique actuelle, même si c'est un mélodrame qui se passe dans les années 50 au Brésil. Donc oui, effectivement, l'émergence de certains pays est liée en partie aussi à la crise éventuelle que traverse un pays.
Et en Espagne, il se passe quoi, Alex Vicente?
En Espagne, il y a une polarisation croissante du système du cinéma. Donc d'un côté, les blockbusters espagnols qui sont censés séduire le très grand public, et d'un côté, un cinéma ultra-indépendant qui subsiste dans un bon état créatif, mais dans un très mauvais état économique. Albert Serra, Oliver Lage, dont on a vu le film cette année, par exemple, qui ont été présentés à Cannes. Et en parallèle, en Amérique latine, on voit un peu le même phénomène, j'ai l'impression, dans des pays comme le Brésil, ou l'Argentine, ou le Chili, ou la Colombie, on voit un cinéma d'auteur quand même très vigoureux, qui est présenté dans les festivals internationaux. Et d'un autre côté, au Mexique, par exemple, tous les anciens réalisateurs issus du cinéma de genre, ou du cinéma d'auteur, comme Iñárritu, Cuarón, Del Toro, s'intègrent, s'assimilent au système d'Hollywood, parce qu'ils ont envie de passer à la vitesse supérieure, et c'est réussi car ils font des films Oscar.
Pour boucler la boucle avec ça, est-ce que vous ne pensez pas justement que ces nouveaux moyens de diffusion vont tout d'un coup faire découvrir au monde entier des cinéastes de tous ces pays?
Oui, mais c'était déjà le cas, c'est-à-dire qu'on voit par exemple la Chine, on se dit, nous spectateurs occidentaux, on voit l'émergence de jeunes cinéastes. Quand on les rencontre, ces jeunes cinéastes, ils nous expliquent que c'est extrêmement difficile de faire des films sur place, que les films ne sont pour la plupart pas montrés, et que c'est grâce, comme leurs aînés, grâce aux festivals internationaux que ces cinéastes ont pu émerger, que des gens comme Jason Koe au départ ont montré leurs films avant d'être assimilés avec le pouvoir quand les choses ont changé. Tout ça pour dire que oui, effectivement, les plateformes vont permettre de faciliter certaines...
Plus que les festivals. Et
oui, mais les festivals...
Pour montrer à plus de gens, surtout.
Alors, évidemment, bien sûr. Mais en tout cas, pour les auteurs, pour émerger, se faire repérer, il y a les festivals, il y a sûrement ces plateformes, mais les festivals, quand même, valident une certaine qualité.
Un dernier mot, Alex.
Justement, les plateformes piochent aussi dans les festivals des films qui sortent à l'échelle globale. Par exemple, J'ai perdu mon corps, le film d'animation français, a été racheté par Netflix, et il est sorti ailleurs dans le monde via Netflix et pas par la voie traditionnelle. Il y a plein d'exemples ces dernières années.
Alors maintenant, on va parler vraiment de cinéma. Cinéma avec des auteurs que vous avez tous choisis, des auteurs qui ont émergé dans les années 2010. On va commencer par celui-là. Tiens, on va voir si vous le reconnaissez.
Reconnaître. Ecco isso. Nem sei se chegar.
Der Führer kennt gewonnen.
Oh, wo war Lucy heute?
Und war er?
Ugyanolyan rab vagyok, mint te.
On a reconnu le Hongrois, on a reconnu la voix de cet homme, on a reconnu surtout le travail très étonnant sur le son. Jordan Minzer, c'est le fils de Saul, et c'est une de vos révélations de la décennie, c'est Laszlo Nemes.
Oui, son premier film, Le fils de Saul, qui a eu le Grand Prix à Cannes. Pour moi, c'est justement, on parlait de cinéma, de réseau, ça c'est, j'ai l'impression que le film c'est un retour au cinéma, une espèce de grand cinéma avec un cinéaste, avec une esthétique très cinématique, je trouve pas d'autres mots. En fait, ça fait penser même au cinéma hongrois du passé, comme le film de Miloš Janko, qui sont des films avec des plans séquences, des films qu'on peut faire que avec, on peut dire, des caméras, avec la pellicule. Justement, Nemes, il insiste de tourner en pellicule, le film a été montré à Cannes en 35 mm. Et même il est sorti dans certaines salles en pellicule. On a l'impression que Nemes veut préserver un certain cinéma qui est en train de disparaître.
Son deuxième film est décevant quand même.
Oui, moi je trouve narrativement décevant, mais esthétiquement pareil, j'ai pu le voir sur grand écran et j'étais assez bluffé, on peut dire, par la mise en scène, par la lumière. Il y a beaucoup beaucoup de détails dans le film qui sont très riches, mais effectivement l'histoire est un peu confuse.
Thank you.
C'est l'une de vos révélations de ces 10 ans, et c'est bien vrai, Laurence et Clément Cogitor.
Mais oui, 36 ans, hein, donc il est bien dans la décennie, hein, avec 10 courts-métrages, dont Braguino, dont effectivement ces Sauvages, qui sont extraits d'un opéra écrit par le DJ Rameau en 1735, et ça donne ce mélange-là entre Rameau et puis la danse actuelle qui s'appelle le Crump, et c'est un clip, je pense vraiment, qui a fait le tour du monde, parce que qui est saisissant de à la fois de modernité et justement de classicisme, donc les deux sont liés et c'est très très beau. Cogitor a d'ailleurs transformé son essai en montant les Indes Galantes récemment sur la scène d'un opéra. Et puis il y a eu aussi, il faut le dire, en 2015, ce film Ni le ciel ni la terre, 10 expositions dont certaines au Palais de Tokyo entre-temps également. Je pense qu'on entendra parler dans les années qui viennent de Clément Cogitor, parce qu'en plus c'est un acteur, vous voyez, c'est un auteur multimédia.
J'ai pas entendu, vous avez pas Braguino aussi.
De Braguino, oui, absolument. Parmi les 10 courts-métrages, il y a Braguino. Braguino, c'est 50 minutes, ça reste un court-métrage, donc on en parle comme ça, ce documentaire qui vient d'on ne sait où, cette espèce de geste très très poétique.
Lui a réinventé la comédie musicale.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
Lui, il est moitié américain, moitié français. Il n'a que 34 ans. Il a déjà fait 3 films. Celui-là devait être le premier, mais il coûtait trop cher. Donc, il a fait juste Whiplash avant, parce qu'il adore la musique. D'ailleurs, il était récemment à Paris pour tourner. Tiens, il s'est lancé lui aussi dans la série. Il tourne une série sur les clubs de jazz et il était à Paris. C'est une tête, hein. Et puis après, il y a eu ce fameux film Dans l'espace, qui était plus un film intimiste qu'un film d'espace. Vous êtes d'accord avec ce choix-là, avec Chazelle, Thomas Borès un peu moins?
Ah si, si, moi j'aime beaucoup Damien Chazelle. Whiplash m'avait profondément énervé. L'avant était très sympathique. Oh oui, le côté, il faut subir, il faut transpirer, et puis cette espèce d'acteur qui jouait un peu les dictateurs, ça m'avait gonflé. La La Land, j'ai trouvé ça sympathique.
Il raconte toujours la même histoire. Hein,
toujours
même
temps, mais alors,
toujours la même histoire.
Le First Man on Earth, là, je sais plus comment s'appelle ce film, First Man, était vraiment très très bien pour le coup. Ouais.
Alors, c'est votre choix maintenant, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, on écoute un petit extrait.
Is it shoes?
Je ne veux pas travailler.
Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, abominable Dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur.
Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisis.
Notre réalisatrice n'avait pas vu le film, elle a entendu cet extrait, elle a dit « Non mais je veux le voir ce film !»
Eh bien, il faut y aller, c'est un film signé d'un cinéaste israélien, ouais. Nadav Lapid.
On l'avait reçu là-bas.
Oui, qui est un très très grand cinéaste. Le plus grand film français de 2019 est israélien, il s'appelle donc Synonyme, puisque c'est l'histoire d'un Israélien qui décide de fuir Israël parce qu'il n'en peut plus de ce pays, et qui décide aussi de laisser sa langue au vestiaire d'une certaine manière, puisqu'il va vivre dans un pays ne plus utiliser sa langue, dont l'israélien, et donc c'est pour ça qu'on le voit réciter des synonymes, parce que Nadav Lapid lui-même, plus jeune, était arrivé en France, avait eu la même idée et donc il avait décidé, pour apprendre la langue, de travailler les synonymes, ce qui lui permettait d'utiliser plusieurs adjectifs.
On dirait un nouveau Godard, un peu, ce Nadav Lapid.
Pourquoi pas. Il a émergé donc vraiment en 2011 avec le policier, qui est déjà un film pour le coup qui se passerait en Israël. D'un coup, une police extrêmement brutale et puis des jeunes insurgés d'extrême gauche, et on voyait déjà comment ces deux mondes arrivaient en collusion. Effectivement, quelque chose d'assez théorique qui rappelait éventuellement Godard. Après, il y a eu l'institutrice. Finalement, il y a 3 longs métrages.
Avec cet enfant surdoué qui est censé être lui petit, qui récitait et écrivait des poèmes.
Des poèmes, et Nadav Lapid, effectivement. Il a utilisé ses propres poèmes qu'il écrivait à cet âge-là, 5 ans. Là, on voit vraiment à quel point le type est brillant. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est là où on peut dire que le parallèle avec Godard est juste, c'est qu'à la fois, il interroge le cinéma. C'est toujours vraiment une interrogation sur le cinéma. et aussi en creux la société dans laquelle il vit, en l'occurrence Israël. Voilà, donc Nadav Lapid, il a aussi fait comme Clément Cogitor, multiplier les formats, puisqu'il a fait énormément de courts-métrages, presque plus que de longs-métrages dans cette décennie, et à chaque fois c'était très intéressant.
Et son héros porte le même manteau à peu près que Marlon Brando dans non mais c'est vrai, il a, c'était une espèce de clin d'œil à Bertolucci dans, rappelez-moi le film,
Tango
à Paris, bien sûr. Et on espère beaucoup pour la suite, bien sûr, hein, des garçons comme ça. Et lui, il a quel âge? Il a
44 ans.
Il a déjà un nouveau film.
Il est un peu plus âgé que Clément Clogy.
Il va avoir du mal à se financer en Israël avec cette nouvelle ministre de la culture qui est absolument monstrueuse avec pour donner de l'argent à ses auteurs qui,
alors heureusement, un producteur français comme Saïd Ben Saïd, qui a beaucoup d'auteurs, aussi confirmés que Brian De Palma, que Verhoeven, elle par exemple, que Nadav Lapid. Oui. Donc voilà, c'était bien de le citer aussi.
D'ailleurs, la France, question tous les trois, coproduit énormément de tous ces films-là. On parle des 10 ans de cinéma, mais la France est absolument présente partout en coproduction dans les festivals.
Énormément, et même, je dirais que la coproduction française, hein, c'est, par rapport au cinéma français lui-même, c'est souvent dans la coproduction qu'on trouve des films de tout le pays qui sont parfois même plus intéressants, je trouve. C'est pas pour condamner le cinéma français, mais je trouve quand même que la richesse...
Donc on prend le meilleur à l'étranger, c'est pour ça.
Oui,
c'est ça.
Oui, c'est cela. Et d'ailleurs, c'est la première femme de la liste. Merci Alex Vicente. Et en plus, elle est française. On n'a choisi pas un extrait d'un film de 2010, mais l'extrait d'un film qui l'a révélé, c'est Céline Sciamma, La naissance des pieuvres.
Je sais pas comment tu fais. Moi, je les écrase. Jusqu'à ce que ce soit une bouillie dégueu.
N'importe quoi.
Ah non, non. Tous les mecs regardent quand une fille mange une banane à la cantine. Je t'assure, c'est connu.
Enfin, remarque, toi, tu t'en fous. T'es passé de l'autre côté. Tu veux dire, du côté des filles qui mangent des bananes?
C'est ce qu'on raconte, c'est tout. Que tu l'as déjà fait. Et avec plein de mecs.
Ouais, c'est vrai. J'adore ça.
Alex, donc c'est votre révélation, c'est vrai que c'est la révélation des dernières années, cette réalisatrice.
Tout à fait, c'est un film qui date de 2007, celui qu'on vient d'écouter, mais je pense que c'est une cinéaste qui s'impose quand même avec les trois films qu'elle a tournés pendant les années 2010, à savoir Tomboy, Bande de filles et Portrait de la jeune fille en feu. Et avec ces quatre films seulement, je pense qu'elle est devenue une personnalité incontournable du cinéma français d'aujourd'hui. C'est un cinéma qui porte sur la question de la représentation dont on parlait tout à l'heure, dans des films comme Bande de filles ou Portrait de la jeune fille en feu. En espagnol, c'est En flamme, c'est pour lapsus. Elle invente une représentation nouvelle pour ces collectifs qui ont été sous-représentés, les femmes noires dans les cas de Bande des filles, ou les femmes tout court dans son dernier film. Et elle introduit la question du genre depuis Tomboy, à une époque où c'était pas très à la mode de parler de ces genres de questions, et qui a fait pas mal de bruit avec des interdictions d'associations pro-catholiques. Bref, ça a quand même marqué la décennie aussi d'une certaine manière. Et pour moi, c'est un cinéma politique qui ne laisse pas que le sous-texte, disons théorique, écrase le récit, qui reste toujours accessible, toujours agréable à regarder, toujours beau, toujours intéressant du point de vue formel. Et pour toutes ces raisons, je pense que Céline Sciamma, c'est l'une des personnalités les plus intéressantes du cinéma français.
Et elle a co-écrit, Ma vie de courgette, un des plus grands films français et un grand film d'animation.
Une autre apparition magique et féminine, Laurent, c'est bien sûr Alice Rohrwacher.
Et oui, vous disiez une femme. Non, il y en a au moins une autre. Puis il y en a d'autres encore. On pourrait aussi citer Kelly Reichardt, par exemple, grande cinéaste américaine, ou combien, je pense, pas faire plaisir seulement à Jordan en disant ça, mais c'est vrai. Alice Rohrwacher, c'est pour l'instant trois films, on les rappelle, hein, Corpo Céleste, Les Merveilles, Grand Prix à Cannes 2014. Je pense qu'avec Christine, on est les seuls à avoir aimé ce film. Enfin, on l'a défendu.
Oui, moi, jury.
Je suis d'accord, moi.
On se voit dans la projection de presse, on était sur un nuage.
On était sur un nuage et un peu seul. Et puis finalement, quand même, le jury, qui parfois n'est pas complètement aveugle à Cannes, là, c'est donné son grand prix. Et heureux comme Lazaro, c'était son dernier prix du scénario, enfin c'est son dernier en date, prix du scénario à Cannes cette année. C'est un regard très singulier sur le monde, avec un mélange incroyable de réalisme et d'onirisme, de trivialité et de sainteté, des petits miracles et puis des grandes merveilles. C'est ça Alice Rohrwacher, et on a bigrement envie de connaître la suite.
Un réalisateur colombien dans votre liste, et quel colombien, c'est Tiro Guerra, Jordan.
Mais oui, il y a deux films assez extraordinaires et très différents, L'étreinte du serpent, qui est un film qui se passe dans le passé en noir et blanc incroyable, la photo est incroyable, et qui raconte l'histoire d'un explorateur européen qui arrive dans la jungle. Et le deuxième film qui est une espèce de parrain indigène incroyable.
Un vrai film sur la naissance de ces mafieux.
Oui. Absolument. Enfin. Qui s'appelle Oiseau de passage et qui a été un peu, j'ai l'impression, passé un peu inaperçu, mais je pense qu'il va considérer comme assez un grand film dans l'avenir.
Thomas, votre deuxième choix, c'est David Robert Mitchell, bien sûr. Bon, moi j'adore It Follows, il a fait d'autres choses, mais pourquoi lui sur les 10 ans d'ailleurs?
Bah écoutez, c'est un cinéaste américain. Il
a 45 ans, c'est le plus
vieux. Ouais, 45 ans, il est un peu comme un outsider parce qu'on l'a révélé à Cannes avec un film qui n'est jamais sorti en salle, The Myth of the American Sleepover, qui était vraiment un film de jeunes, de college, vraiment très 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 intéressant.
La légende des soirées pyjama,
ça a été traduit, pardon, excusez-moi, vous, c'est sorti en vidéo. Et donc déjà, on se disait, tiens, voilà quelqu'un qui va explorer les genres et qui, pourquoi pas, va les renouveler, et c'est vrai. It Follows, par exemple, est le meilleur film d'horreur, le meilleur film d'angoisse, de suspense
la
de cette décennie.
La plus grande intro.
Voilà, oh. It Follows, en 2014, révélé à la semaine de la critique, c'était absolument magistral, comment la mort, qu'on ne voit pas, eh bien, poursuit ces jeunes héros. Donc évidemment, comme tous les films d'horreur américains et autres, ça parle évidemment du contexte américain, mais surtout il y avait un sens du rythme, une beauté dans la mise en scène. Et moi ce que j'ai adoré, c'est qu'on l'attendait avec l'autre grand film d'horreur, c'était Under the Silver Lake à Cannes, et ça a été une relative déception pour beaucoup de monde, mais pas pour moi. J'aime bien cette espèce de vrai faux remake du Privé d'Altman, où il y a une espèce de digest de toute la pop culture, mais comme ça un regard assez triste et mélancolique là-dessus, j'ai trouvé ça formidable.
On termine juste très vite sur votre dernier choix, Alex, qui est quand même un nouveau, on l'appelle le nouveau Spielberg, c'est Jeff Nichols.
Oui, il y a du Spielberg, il y a du Terrence Malick dans ce qu'il fait.
Un peu, c'est vrai.
C'est pour moi, c'est un cinéaste qui s'inscrit dans la grande tradition du cinéma, mais surtout de la littérature américaine.
On rappelle deux ou trois titres de films.
Take Shelter, Mad, Midnight Special, voilà. Love.
Ouais.
Parmi d'autres.
Bravo.
Il en a fait 6, il a 40 ans, et comme je disais, il s'inscrit dans cette tradition de la grande littérature américaine, qui part des grands sujets. Bon, je pars sous le contrôle de Jordan, évidemment, mais de la famille, de l'amour, des races, il interroge tous les mythes fondateurs de l'Amérique d'une façon assez originale, avec une puissance visuelle assez impressionnante, et toujours avec deux niveaux de récit, un récit très simple, en surface, il y a un niveau métaphysique très sombre, très trouble en paix en cachette, et c'est l'une des grandes révélations de cette décennie pour moi.
Il n'a que 41 ans. On va se retrouver pour les sorties, on n'a pas cité, même si on l'aime plus ou moins, c'est Dolan quand même.
Oui.
C'est quand même aussi le cinéaste de la décennie, on aime ou pas, mais voilà. Il est né avec les années 2010, et il a déjà fait 8 films, c'est complètement... Et il a que 30 ans, c'est complètement fou.
Et il peut rappeler l'Almodovar des années 90, dans le sens où il revendique le mélodrame.
C'est vrai.
Et aussi, c'est la foi totale dans la puissance de l'image, et c'est très rare de retrouver ça chez un cinéaste aussi jeune.
On se retrouve pour les sorties après Mark Ronson, Anderson .Paak. And then there were two. Right now we have to stop somewhere. On va commencer par un truc très moderne, c'est Les filles du Dr March de Greta Gerwig, vu par Thomas et Alex. Alors, une nouvelle adaptation donc du classique de Louisa May Alcott avec Saoirse Ronan. On dit Saoirse Ronan, non, je sais plus comment on dit. Emma Thompson, Florence Pugh, Bon allez, on en parle.
On en parle. C'est la énième adaptation, vous l'avez dit, de ce roman, de cette œuvre, Les Filles du Docteur March. Et pourtant, on se dit, tiens, alors effectivement, au départ, on est un petit peu battu dès le départ, il faut le dire, parce qu'on se dit, ça y est,
on connaît l'histoire,
ces filles de la classe moyenne américaine pendant la guerre de sécession dans le Massachusetts qui vont essayer de s'émanciper. Et après, on comprend pourquoi Greta Gerwig a fait ce film, ce deuxième long métrage. Il parlait évidemment de l'émancipation des femmes. On est en plein air MeToo, c'est un sujet évidemment à propos. Non, ce que j'aime dans ce film, c'est la mise en scène. Comment la mise en scène va finalement tout rattraper et comment on va suivre en parallèle, allez, le destin de trois de ces quatre sœurs, puisque la dernière, on ne dira rien pour ceux qui ne connaissent pas, mais est un peu en retrait. Et non, je trouve que c'est, il y a vraiment une belle
spoiler
incarnation.
Alert.
Spoiler alerte. Il y a une vraie incarnation. Non, moi j'ai trouvé ça très bien. Et pourtant, je partais battu.
Oui, très bien.
J'ai pas convaincu Christophe.
Je suis moins enthousiaste que Thomas. J'aime bien la relecture.
On va pas rester 3 heures dans plusieurs films.
Non, mais c'est quand même l'une des grandes sorties de l'année. C'était l'un des grands paris des studios pour l'année en tout cas. Donc, je trouve intéressant la relecture du roman qui a souvent été traité comme de la sous-littérature pour femmes au 19e siècle. Et de se dire que là, il y a quelque chose d'important sur la condition, la vie sociale des femmes à l'époque et tout ça. Après, je trouve qu'elle reste à mi-chemin. Elle va pas au bout de sa pensée, elle essaie de contenter tous les spectateurs plus avisés, le grand public.
Elle est généreuse.
Ça reste un peu flou comme propos et pour moi c'était une déception après
Merci
les
beaucoup,
livres
Alex.
Que j'avais
Merci
beaucoup aimé.
Beaucoup.
J'ai fini.
Séjour dans les monts Chunchun, c'est une révélation et Thomas est d'accord. Oui. De Gu Xiaogang, hein, Laurence,
ben oui.
C'est une famille qui s'écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et la vie d'un fleuve. Le titre ne donne pas du tout envie d'aller le voir. Séjour dans les monts Chunchun.
Et pourtant c'est une œuvre.
Et pourtant c'est magnifique, c'est un premier film extraordinaire.
Oui, mais en même temps, c'est une des dimensions du film, c'est-à-dire c'est la dimension patrimoniale, poétique, voilà, qui est quand même dans le film, qui existe, parce que c'est ça l'intérêt, c'est la confrontation de deux univers, avec notamment cette scène parfaitement emblématique où un ouvrier qui est en train de détruire un immeuble d'habitation, eh bien s'arrête tout d'un coup avec sa pioche à la main parce qu'il découvre des photos et des traces du passé. Et à ce moment-là, voilà, c'est cette rencontre improbable, merveilleuse, magique entre effectivement quelqu'un qui est dans la modernité absolue, qui détruit tout, et puis le passé qui revient. Ces trois générations de familiales qui nous sont montrées dans ce très très beau film appliquent en quelque sorte ce regard sur la Chine, et c'est souvent un regard sans concession.
On pourrait rajouter ce plan séquence.
Il y a un jeune couple qui marche, on l'entend l'autre jeune couple qui est caché par les arbres et qui apparaît.
C'est formidable, il a tourné en 2 ans le réalisateur, il a fait 2 prises à chaque fois, c'est un plan séquence qui dure à peu près 14 minutes, et qui rentre en résonance avec le titre de ce film, qui est une œuvre du XIVe siècle, une œuvre célèbre chinoise, et c'est un rouleau qu'on déplie de manière horizontale, et d'ailleurs, ce plan séquence est horizontal. C'est vraiment la signature presque du cinéaste qui rappelle la manière dont on découvrait à l'époque ce genre d'œuvre. Autant dire que c'est formidable, et autant dire aussi que c'est le début d'une trilogie, puisque le jeune réalisateur qui a, je crois, 31 ans, a prévu de s'avancer progressivement vers la mer, la grande mer de Chine, et on va suivre ses personnages sur 3 films.
Et autant dire que c'est un film qu'il faut aller voir au cinéma.
Séjour dans les monts Fushun. Vous voulez vraiment nous parler de Ghost Tropic, Thomas, ou pas? Deuxième film du réalisateur belge Bas de Vos.
Alors, vous rentrez dans la salle, après vous pouvez repartir, parce que la première séquence rappelle donc une grande cinéaste, Chantal Akerman. C'est un film belge, et d'ailleurs, il y a presque une signature comme ça, avec une espèce de plan fixe sur un salon, et puis une voix off qui s'interroge sur la manière dont chaque corps peut appréhender un espace. Voilà, ça commence vraiment très fort, et on pense évidemment à Chantal Akerman. Après, c'est l'errance d'une femme de ménage qui va se retrouver, enfin, s'endormir dans le bus, et qui va se retrouver au terminus, qui va rentrer à pied en pleine nuit. Et après, c'est un peu plus convenu, mais le début, rien que pour le début, c'est beau.
Pourquoi ça s'appelle Ghost Tropic ?
Écoutez, je sais pas.
D'accord. Je vous piégeais pas, hein, mais je me demandais.
Non, mais j'ai peut-être la réponse.
Cunningham, Alex Vicente de Alla Kofgan. Donc c'est sur le grand créateur de ballet, bien sûr. Et c'est avec des documents. Il paraît assez très très original.
Oui, c'est un mélange de portraits de ce chorégraphe fondamental dans l'histoire de la danse contemporaine, une récréation d'une quinzaine de ses danses, un peu suivant le modèle de ce que Wim Wenders avait fait avec Pina, avec l'usage de la 3D en plus qui est partagé dans ce cas. Ça parle de son importance dans la danse contemporaine, de sa relation avec John Cage, de sa collaboration avec des grands artistes de l'époque. l'époque, comme Andy Warhol ou Jasper Johns. Après, ce n'est pas un documentaire saisissant. Parfois, ça manque de focus et d'ambition et d'audace. Ça passe un peu vite sur des épisodes un peu polémiques de sa vie et de sa carrière. Mais bon, ça reste une très bonne introduction à son œuvre.
Alors, il reste deux films au choix. C'est soit Play, soit Echo. Echo, Runar Runarsson, Laurent Islandais.
Oui, non, écoutez, on peut passer. Si Thomas a envie absolument de parler de Max Boublil, je lui laisse le...
Parce que c'est Play de Anthony Marciano avec Max Boublil. Moi, j'aime beaucoup Max Boublil.
Voilà, d'où l'expression, se refiler à patate chaude. Ouais, merci, monsieur Delmas.
Le nouveau était vachement bien avec lui. Le nouveau, le film.
Oui, le nouveau était très bien. Ouais. Max Boublil est plutôt très sympathique. Oui. On voit quasiment que lui, ou en tout cas, alors je vais pas révéler les trucs, mais non. Lui est jeune. Enfin, c'est ce qu'on appelle le found footage, hein, vous savez, ce projet Blair Witch, mais là, sur le mode de la comédie sans donc il retrouve des vieilles cassettes vidéo puisqu'il a filmé toute son enfance et on va suivre une histoire d'amour. Donc on se dit au départ, ça va pas marcher parce qu'effectivement le principe même paraît casse-gueule et puis il faut bien reconnaître que ça marche et la technique là, en tout cas les effets pallient sur le scénario qui est bien mince quand même.
Merci et belle année à tous les trois, merci Alex Vicentier, merci Jordan Mintzer, merci Thomas Borrez, merci Laurent,
merci Christine.
Et non, et merci aussi à Sonia Leglet, notre éditrice, et à Ophélie Vivier, un grand merci.
Merci à elle.
Premier générique de l'année avec notre star préférée, tout simplement avec Catherine Deneuve.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Sporto Contes a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Catherine Deneuve, j'y étais.